Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Lecture en tête à tête, une émission de Lecture en tête en partenariat avec L'Autre Radio. Alors nous avons pour habitude de recevoir des écrivains et des professionnels du livre. Et bien aujourd'hui, nous faisons un petit pas de côté puisque nous recevons l'artiste Jean-Louis Cerisier. Bonjour Jean-Louis.
Bonjour Alexia.
Alors Jean-Louis, vous êtes né à Châteaubriant il y a quelques années, mais vous avez passé votre enfance et votre adolescence en Mayenne. Donc vous avez commencé à produire des œuvres au début des années 70 en tant qu'autodidacte. Alors il s'agit d'abord de dessins au stylo, à la plume, à la gouache. Et puis ensuite, vous allez multiplier les techniques et les supports avec le bois, le carton, les radiographies, j'ai vu aussi, l'ardoise et puis bien d'autres supports. Donc vos œuvres sont figuratives. Ce sont des fenêtres sur le monde, sur les mondes même, on pourrait dire. On est à la fois sur le monde observable et puis sur le monde ou les mondes intérieurs. Et ce sont vraiment ces deux mondes-là qui dialoguent. Donc il y a une dimension onirique qui est vraiment très forte dans votre travail. Et puis une dimension méditative aussi. Alors ma première petite question, parce que quand j'ai vu les premiers travaux au stylo, je me suis dit finalement c'est l'objet qu'on a dans la poche ou au moins dans les tiroirs. Est-ce que commencer l'art avec un stylo, c'est une façon de commencer un petit peu sans en avoir l'air, un petit peu humblement, sans trop assumer finalement?
C'est à la fois ça et pas ça. J'ai commencé donc, comme vous l'avez fort bien résumé, expliqué, à travailler à l'âge de l'adolescence. J'ai travaillé en fait avec les moyens du bord. Mmh. Et les moyens du bord, c'était les feuilles de mes cours d'espagnol que je retournais pour faire mes dessins, ou bien d'autres documents que je récupérais. Et le matériau naturel, c'était le stylo à billes, parce que c'était celui que j'utilisais à l'école, en classe.
D'accord.
Et finalement, j'ai trouvé ce matériau extraordinaire, au point que je l'utilise toujours.
D'accord, donc finalement, vous n'avez abandonné aucune technique?
Non.
Vous passez d'une technique à une autre, en fonction des besoins, de l'inspiration.
Voilà, je suis fidèle à tous les objets, les instruments et les médias que j'ai pu utiliser par le passé. À part peut-être la peinture à l'huile, parce que c'est un peu compliqué, que ça sent très fort.
Oui. Alors ça sent bon aussi, à l'odeur de l'essence de terre levantine, oui. Mais enfin c'est vrai que c'est un peu, on va dire, enivrant.
Voilà.
Alors vos œuvres sont exposées au Manas, donc c'est le musée d'art naïf et des arts singuliers de Laval, au musée de la création franche à Bègle, et au musée de Silésie à Katowice,
Katowice,
en Pologne. C'est quand même une sacrée reconnaissance d'être exposé dans un musée, quand même, parce que c'est la reconnaissance de l'institution aussi.
Oui, je commencerai par le musée de Le Manas à Laval, qui revêt pour moi une importance particulière, puisque quand je commençais à dessiner, à l'adolescence, je fréquentais déjà le musée, qui s'appelait à l'époque le musée du Vieux Château, qui était dirigé par Charles Châtel. Et Jean-Pierre Bouvet avant lui. Et c'était effectivement une sorte de havre artistique dans lequel je me plongeais. J'aimais me plonger avant de faire d'autres découvertes et d'aller dans d'autres musées. Mais c'est un peu le point de départ. Et le fait d'y avoir été accueilli par la suite, pour moi, c'était un honneur. Mmh. Et puis, je m'y trouve bien. Il y a également le musée de la création franche. Là, c'est une autre histoire. C'est l'histoire de la rencontre avec Gérard Sandret. J'aurai l'occasion peut-être de vous en reparler.
Mmh. Alors, je vais revenir un petit peu en arrière. Je reviens dans les années 70. C'est l'époque à laquelle vous vous liez d'amitié avec le peintre Jacques Remeu. Alors, qui est Jacques Remeu?
Remeu.
Je l'ai écrit trois fois. Lorsque vous le rencontrez, et quelle influence en fait il a sur votre travail d'artiste? Est-ce que c'est une rencontre? C'est ce que j'ai cru comprendre dans mes lectures. C'est une rencontre décisive pour vous?
Oui, absolument. Parce que Jacques Remeu, c'est la puissance brute de l'expression. C'est quelqu'un qui avait une enfance absolument terrible et qui se réparait par la création. Alors, il se trouve que moi-même, en ayant une enfance plus douce que la sienne, j'étais quand même un garçon introverti. Mes années d'enfance et d'adolescence sont marquées donc, par un environnement de casernement. Mon père était garde républicain à Paris, puis ensuite gendarme en Mayenne. Et j'ai vécu donc cet univers de claustration, presque pratiquement, avec des grilles qui gardaient la gendarmerie et des serrures à ouvrir pour pouvoir entrer et sortir. Et finalement, je me trouvais une sorte de communauté de destinée avec Jacques Remeau, c'est-à-dire cette volonté de sortir de sa condition initiale. Et c'est vrai que, quelque part, il m'a montré la voie, puisque lui, quand il était à l'école, il a eu la chance de tomber sur un maître qui a été très compréhensif et qui lui a donné des crayons et des pinceaux en disant « Bah, écoute, tu n'y arrives pas, mais ce n'est pas grave, tu peux dessiner. » Et ça a été son sauvetage. Quelque part, il m'a montré la voie. Et c'est vrai qu'à l'âge de 15 ans, j'ai décidé que moi aussi, j'allais faire de la création artistique une voie, une colonne vertébrale, quelque chose qui allait me sortir de l'état d'enfermement dans lequel je me sentais.
Alors vous vous inscrivez dans la mouvance des arts singuliers. Alors c'est un terme qui est difficile à définir parce que pour le coup il englobe énormément de choses. Alors moi je dirais assez simplement que déjà c'est l'art souvent d'autodidacte. Et puis surtout c'est un art qui ne s'encombre pas de codes. Alors finalement ça fait écho un petit peu avec ce que vous venez de dire, avec cette idée de sortir de sa condition, de sortir un petit peu de l'enfermement. Quelle est vous votre définition finalement de ces arts-là singuliers ou de cette pratique-là, même si vous l'avez un petit peu évoqué finalement en parlant de votre adolescence et des raisons pour lesquelles vous vous êtes mis à peindre.
Alors l'art singulier, c'est un art pluriel, pour commencer, c'est ce qu'on peut dire. C'est un art qui regroupe en général des artistes autodidactes, pas toujours, mais en général. Et puis ce qu'on considère comme les artistes autodidactes inspirés. Alors là, évidemment, c'est un peu c'est difficile de dire qui est inspiré, qui ne l'est pas. Il y a des spécialistes en la matière. Le fait qu'il y ait dans cette famille de l'art singulier une sorte d'ouverture, moi, me convenait bien. Et il est vrai que je vous ai parlé de Gérard Sandret. La rencontre avec Gérard Sandret a été fondamentale, puisque lui avait une réflexion, il était issu de l'art contemporain au départ, mais il avait une réflexion sur l'art qui l'a amené à s'intéresser à des formes de création ouvertes. Lui-même, pour lui d'ailleurs, cherchait des formes d'ouverture et de libération dans la création. Et moi, après avoir dit ce que j'ai dit sur Jacques Remeau, j'ai trouvé chez Gérard Sandret des possibilités nouvelles de création, toujours dans un esprit de se libérer.
Et c'est vrai, alors c'est drôle parce qu'à la fois il y a la volonté de se libérer. Est-ce que précisément ce désir comme ça de se libérer, le fait qu'on ne soit pas dans une démarche académique, on n'entre pas dans des codes très spécifiques de l'art officiel, c'est à la fois prendre le risque de s'exposer aussi un petit peu quand même au rejet, au mépris, au pire au rejet, mais finalement ça offre précisément une liberté totale, parce qu'on n'entre pas dans les codes, quoi.
Absolument. Et on a une forme de confiance en soi qui confine parfois de l'inconscience. Mais ça m'a aidé parce que je ne savais pas dessiner, je n'avais pas de culture artistique, et j'ai appris à dessiner, et je me suis fait une culture artistique. Donc il y avait toutes ces années qui sont un peu des années d'incertitude, où malgré tout on croit en soi pour une raison qui n'est pas toujours facile à discerner, mais on croit quand même en soi suffisamment pour aller de l'avant, chercher et expérimenter, et puis petit à petit commencer à acquérir une expérience qui fait que on commence à se sentir à l'aise.
Oui, c'est ça, puis légitime, ouais. Peut-être en fait.
Oui, oui, tout à fait.
On s'autorise à être un artiste.
On s'autorise. Mm. Et ça, c'est très important.
Et
je crois.
À quel moment. Parce que c'est vrai qu'être artiste, c'est presque difficile à dire. C'est comme de dire d'ailleurs, je suis écrivain. À quel moment on est artiste? À quel moment on est écrivain?
C'est très difficile de répondre à cette question. C'est vrai qu'il y a quand même un moment de la vie où on a l'impression qu'on l'est réellement devenu. Je pense qu'on le sent quand on voit qu'on constate en regardant un petit peu dans le rétroviseur que cet art, cette création, finalement, elle est au centre de sa vie. Elle m'habite maintenant en profondeur.
Alors vous peignez, vous écrivez aussi de la poésie. Donc finalement, c'est aussi une autre liberté que vous vous autorisez. Parce que l'écriture, oui, c'est encore une autre démarche.
Oui.
Est-ce que vous nous feriez le plaisir de nous lire dès maintenant quelque chose, une de vos compositions ?
Et très volontiers. Aujourd'hui, maintenant, comme à l'âge de 15 ans, agi par une force intérieure, il faut se rassembler, faire confiance, tenter quelque chose, trace, trait, oser une tonalité, croisement, rencontre, repentir, atténuation, progresser vers l'accomplissement de quelque chose qui sera soi et déjà hors de soi. Accompagner le temps, en contemplant inlassablement, engranger les impressions visuelles, sensibles, elles ressortiront, soutenant la main, les choix chromatiques. Toujours en recherche, la liberté a ses contraintes. Elle peut laisser désorienter. Inspiration, quête d'étrangeté, qui rencontre du mystère de la vie, du mystère du monde. Parfois tranquille, presque serein, la poésie s'offre, immédiate, inattendue, éphémère. Partir de quelque chose, trace préexistante, nervure sur le bois, sur l'ardoise, grain du papier, il suggère des pistes. Devenir compositeur et interprète mêlé.
Merci beaucoup. Donc la peinture aussi est présente, et les objets, les sensations finalement de la peinture sont présentes dans votre poésie aussi.
Tout à fait. Et quand je me promène sur une plage, sur les bords de l'Atlantique, et que je marche en contemplant les merveilles qui me sont offertes, sur la mer, sur les rochers, dans le ciel, baisser la tête et tomber sur un petit morceau de coquillage, un bois flotté, ou bien un petit morceau de tissu qui a été ballotté par les eaux, le rapporter à la maison, c'est comme un don qui m'a été offert par la vie et que je vais utiliser ensuite de la meilleure façon que je puisse faire.
Et ce sont des trésors, une façon de célébrer finalement les petites choses de la vie, récolter des trésors et puis en faire quelque chose.
Absolument. Fait, la volonté seule ne compte pas en création. Il y a aussi l'imprévu, il y a aussi l'inattendu, il y a aussi des formes d'offrandes qui arrivent et dont on va faire quelque chose.
Alors tout à l'heure, je précisais que vos œuvres étaient exposées en Pologne. Donc, vous êtes parti vivre quelques années là-bas, enfin 3 ans, en tant qu'instituteur. Alors qu'est-ce qui vous a donné envie de partir comme ça ? Est-ce que c'est parce que là-bas, les arts populaires sont peut-être plus encouragés, plus présents ? Expliquez-nous ce choix.
Alors la découverte des arts populaires en Pologne, je l'ai faite en étant sur place. En fait, j'étais attiré depuis longtemps par la Russie, pour commencer, dans mon adolescence, où je lisais les livres de Dostoïevski sans les comprendre à ce moment-là. Et j'avais cette passion pour l'Orient, mais l'Orient, donc slave, et qui est resté en fait pendant très longtemps. Et quand une opportunité m'a été donnée à une époque où la vie à Paris était un peu difficile, je venais d'avoir ma petite fille, et nous avions des difficultés de logement, et cette opportunité est arrivée, s'est présentée. Avec ma femme, on s'est emparé de cette possibilité et nous sommes partis. C'était en 1989, c'était juste au moment de la chute du mur de Berlin, donc il se passait beaucoup de choses. C'était à la fois difficile et passionnant. Et effectivement, pour répondre à votre question, en voyageant à l'intérieur du pays, je découvre que ce pays recèle énormément d'œuvres issues des créations populaires, une tradition ancienne qui est liée au fait qu'en Pologne, le monde rural était resté indemne, ce qui n'était pas le cas dans les autres pays d'Europe orientale. Et la création donc accompagnait traditionnellement le monde rural, même en France, tout ce petit artisanat, je ne devrais pas dire petit d'ailleurs parce qu'il est très beau, accompagnait la vie du monde paysan. Et donc là, j'ai découvert des œuvres, y compris énormément d'œuvres qu'on pourrait classer dans l'art brut. Et là, ça a été pour moi une révélation, au point que, au retour en France, on est en 1992, je me dis, mais en fait, j'ai trouvé des merveilles en Pologne, est-ce que je pourrais pas trouver des merveilles en France ? Et donc, dans l'Ouest, où je passe beaucoup plus de temps qu'ailleurs, j'ai commencé à faire ce parcours avec les yeux grands ouverts sur ce qu'il y avait, les œuvres buissonnières, les œuvres qui sont sur les bords des routes, des inspirés des bords des routes, des bricoleurs de l'imaginaire. Et j'ai commencé à faire de belles découvertes.
Voilà, comme les coquillages sur la plage, finalement.
Voilà.
On est sur des productions humaines, mais quand même des petites surprises comme ça, au gré des balades et voilà, des différentes routes qu'on emprunte. Alors, on va faire une petite pause musicale avec Keith Jarrett, et c'est le choix de notre invité.
Thank you.
Jean-Louis, est-ce que vous travaillez en écoutant de la musique ?
Eh bien, oui. J'aime écouter de la musique en peignant, notamment certaines musiques méditatives ou contemplatives, comme peut l'offrir par exemple Qu'est-ce que j'arrête ? Ou l'autre morceau que nous écouterons plus tard. On peut se sentir porté par la,
oui, complètement,
par la musique.
Alors Jean-Louis, vous connaissez depuis longtemps l'association Lecture en Tête, puisque vous participez depuis de nombreuses années, depuis 2017, à l'exposition Un roman, un artiste, organisée à l'occasion du Festival du premier roman et des littératures contemporaines. Alors le principe est simple, un artiste s'approprie le roman d'un primo-romancier sélectionné par l'association et produit donc une œuvre. Alors qu'est-ce qui vous a séduit, vous, au départ, dans cette proposition ?
Pour commencer, j'ai répondu à l'invitation de Michel Fouillet et c'est l'occasion que vous me donnez de lui faire un petit salut et je repense à ce que Michel dit de son initiative d'avoir voulu associer la création artistique au roman. Il disait que quand il était instituteur, il proposait à ses élèves de faire un petit dessin à côté de la poésie qu'il venait d'écrire. Et finalement, pour lui, la présence du dessin à côté de l'écriture était quelque chose de naturel, d'où l'idée qu'il a eue d'associer la création artistique et la création littéraire. Alors, pour répondre précisément à votre question, je vous avoue qu'au tout début, j'ai été mis face à une grande difficulté, à savoir que moi, je travaille plutôt de manière spontanée. Et là, eh bien, il y avait un défi à relever, c'est celui d'entrer en relation avec l'œuvre littéraire, de la prendre comme point de départ et de se couler dans cette œuvre littéraire. Donc, au départ, c'était difficile. Et aujourd'hui, 6 ans plus tard, ça devient une expérience extrêmement riche et enrichissante pour moi, parce que justement, ce décentrement par rapport à mes habitudes, m'a apporté beaucoup. Et notamment, le fait d'explorer d'autres modes, j'allais dire opératoires, ça fait un peu bizarre, mais d'autres manières de faire pour se mettre en diapason avec l'œuvre que l'on a adoptée ou qui s'est invitée pour chaque année l'événement de l'année.
Et donc parfois, finalement, la contrainte peut permettre d'être aussi créatif,
oui,
en fait.
Oui, tout à fait, tout à fait.
Dans la contrainte, on trouve d'autres solutions.
Absolument. Finalement. Il faut juste accepter de faire des choses différentes. Enfin, en tout cas, moi, je dis ça pour moi, de faire des choses différentes de ce que l'on fait habituellement. Et on découvre, encore une fois,
voilà, ça peut ouvrir de nouvelles voies, en fait.
Ça ouvre.
Donc cette année, vous avez travaillé sur le roman de Kinga Wierzykowska, Patte blanche. Et comment ça s'est passé, le choix de ce roman en particulier ?
Eh bien, de manière un peu fortuite, puisque ce n'est pas le livre que j'avais choisi au départ. Mais ça, ce n'est pas la première fois que ça m'arrive. Et finalement, ça ne me pose plus de problème, ça, en fait. Donc, ce livre, à un moment donné, quand on a fait le point avec Anne-Sophie, n'avait pas été choisi. J'étais parti sur la lecture d'un autre livre. Mais en fait, quand la proposition est arrivée, je ne devais pas être trop impliqué avec le premier livre parce que je me suis emparé de cette proposition d'Anne-Sophie. Et j'ai commencé à lire ce livre. Ça m'a passionné. J'étais emporté par ce livre. Je lui ai trouvé une énergie très grande, une intelligence dans la manière de scruter les personnalités, les relations qu'il peut y avoir entre les personnalités, avec un côté un peu caustique, mais aussi, quand on creuse un peu, une attention très forte à la sensibilité des gens. Tout de suite, je me suis dit, ce livre, il est pour moi, et on y va.
Et vous vous êtes lancé, en fait. Alors, vous avez accepté de vous laisser porter, quoi.
Voilà. Mm-mm. Et alors, parmi les... Je vous parlais des choses qui arrivent sur notre chemin, parfois. Là, ça a été le cas, puisque dans une brocante, je suis tombé sur ces boîtes de caractères d'imprimerie qu'on trouve difficilement d'ailleurs maintenant, aujourd'hui.
Oui.
Voilà, ouais. J'ai eu la chance donc de tomber sur cette boîte, je l'ai achetée, je suis revenu à la maison et je me suis dit, ben, ce sera mon support.
Ah oui, d'entrée en fait.
Jusqu'à présent, j'ai toujours en fait, dans ma manière de procéder, je lis une première fois le livre en entier, je reprends la lecture une deuxième fois avec un carnet, qui est un carnet de notes et des petits dessins. Je vous montrerai, j'en ai apporté un, justement celui de Pâte Blanche, du livre de Kinga. Donc ça, c'est la deuxième partie. Et dans un troisième temps, je me mets au travail. C'est-à-dire, je vais chercher dans ce carnet de notes illustré les éléments et je construis, en fait, mon travail. Donc là, ça s'est passé sous la forme de 65 vignettes illustrées, 2 mois et demi de travail quotidien. Donc je me suis donné.
Oui, c'est énorme.
Je me suis donné. Ah oui, ouais. Oui. Mais maintenant, quand arrive le moment de lecture en tête, j'ai vraiment dans l'esprit que j'y consacre 3 mois. Parce que, les choses, elles se méritent, en fait.
Oui, et puis c'est vrai que j'ai cru, parce que j'ai croisé pour le coup Kinga Wierzykowska, elle a beaucoup aimé cette œuvre-là en particulier.
C'est ce qu'elle m'a
dit,
voilà,
oui. Elle était fière, elle était heureuse
c'est
que
ce,
ce soit. Puis le fait que ce soit cloisonné comme
absolument.
Ça, on regarde comme à travers un trou de serrure la
tout
vie de cette famille. Voilà.
Mm-hmm. Oui, c'était, ça correspond bien à la tonalité du roman.
Tout à fait, c'est ça en fait. Alors justement, donc on parle de la présentation de l'œuvre à l'auteur. Donc l'exposition, c'est le temps de la confrontation avec le public. Donc après l'isolement de la création, même si peut-être qu'il est relatif pour vous, ça on peut en reparler. Donc il y a le moment de la rencontre. Et j'insiste un petit peu sur ce point-là parce qu'on a parfois tendance à imaginer, peut-être à tort, hein, l'artiste comme quelqu'un d'assez solitaire. Alors, c'est une vision un peu caricaturale, mais qui est assez tenace dans l'imaginaire collectif. Pourtant, donc, l'inspiration, et on le dit depuis le début de l'émission, hein, ça naît vraiment de la rencontre. Comment s'articulent pour vous ces deux moments ? Est-ce que vous passez facilement de ce temps de la création, qui est peut-être un petit peu un temps quand même où on s'isole, et puis ce temps de l'exposition qui alors je ne sais pas si c'est un temps qui, je ne pense pas que ce soit violent, mais quand même d'un seul coup de présenter son travail, et surtout là, en plus en particulier, à un auteur qui va peut-être le regarder avec un œil plus critique encore. Est-ce que c'est difficile, ça, ou pas ? Enfin, là, je vous ai posé 2 questions.
Alors, quand j'étais plus jeune, le fait de s'exposer, c'était pour moi une mise à nu.
Ah oui.
Aujourd'hui, je le dirais différemment. J'ai appris à faire confiance à ce qui peut advenir. C'est-à-dire que j'accepte le fait que ce que j'ai fait n'attire pas l'attention de la première personne intéressée, à savoir l'écrivain ou l'écrivaine. Ça, je l'admets tout à fait. Donc la rencontre n'a pas toujours lieu réellement.
Oui.
Mais en tout cas, j'ai suffisamment confiance maintenant pour l'aborder sans crainte. Voilà. Et même, je vais plus loin, je la trouve intéressante, sinon primordiale. Et là, vous me donnez l'occasion de dire que pour moi, je considère la création artistique comme un double moment, et ça répond à votre question, un moment de solitude important, parce que nous sommes faits comme ça, nous, les artistes, nous avons besoin de replis. Ces replis sont vraiment cruciaux, hein, vitaux. Et puis, dans un deuxième temps, ce n'est pas le cas de tous, mais un certain nombre d'entre nous, on est d'accord pour qu'il y ait cette rencontre avec le public. Parce que dans la rencontre avec le public, il y a autre chose qui se passe. C'est la deuxième phase. C'est la possibilité que les visiteurs s'approprient à leur manière ce que l'on a fait. Et ça, ça c'est vraiment intéressant de le découvrir et d'être présent, de l'entendre, de le constater et d'en faire quelque chose aussi pour la suite.
Oui, finalement, on accepte que le public s'approprie notre travail.
Absolument.
En fait. Voilà, à sa
manière.
Juste l'accepter, le laisser filer d'une certaine manière.
Tout à fait.
Alors, cette exposition collective, qui s'intitule « Cette année, 18 romans, 22 artistes », sera visible cet été, du 1er juillet au 23 août, à la médiathèque de Changé. Donc, il faut aller voir cette exposition. Je vous invite maintenant, Jean-Louis, à lire un extrait de votre choix, de Annick Valaknevitch. Il ne portait pas de chandail. On vous écoute.
J'ai choisi plus précisément plusieurs extraits. Je commence par Ouest 2001. À quelques jours de sa mort, le visage éclairé d'un timide soleil, un œil sur le rideau de peupliers, entre l'hôpital et les champs, père sourit. Soleil de février remplit les greniers. Ses grosses mains sont posées sur ses cuisses amaigries. Elles ont l'air de tenir un outil en permanence, bêche ou truelle, sarcleuse ou plâtreuse. Père attache plusieurs fois son cathéter. Les infirmières l'attachent. Il faut qu'il se tienne tranquille. Il a fait disparaître les clés de son armoire. On trouve un double. Dans le placard, un sac en plastique contient un amalgame de tartines, d'épluchures, de miettes, de couennes de jambon, de papier gras, de chaussettes, une chemise. Père roule de gros yeux. Il dit qu'il faut fermer à double tour, qu'il faut cacher ses provisions, que son voisin est un voleur. Je reviens un peu en arrière pour Est 1943. Tobias n'a jamais quitté son village. Il ne reconnaît rien. Il écarquille les yeux, essaie de graver des images. Il fabrique des repères à toute vitesse pour son retour. Contre sa poitrine, il serre son trésor. Miche, peluche, pain, ourson. Elzbieta le lui a donné avant que les soldats ne l'emmènent. Dans un camion débâché et cahotant, des dizaines d'hommes se pressent les uns contre les autres. Le froid cingle les corps. Tobias souffle sur ses doigts. Le convoi dégage un nuage de gaz brûlé dans un pays émeraude glacé. Une ville surgit, hérissée de maisons, clochers, gares. Les oreilles de Tobias se tendent vers les mots, trébuchent sur la langue inconnue. Des trains, des vrais trains, des verres métalliques couverts de givre s'ébranlent. Ils gênent comme de vieilles paysannes. Les soldats jettent hommes et femmes dans des wagons sans lumière. L'hiver grince de ses cristaux sur les voies. Tobias, pressé contre la paroi par des corps plus forts, regarde les fissures blanches. Elle strie la masse sombre. Son œil s'évade juste un instant dans une fuite verticale qui brûle les pupilles. Il pleure de froid, de peur. Il se pisse dessus, la vessie dilatée. La chaleur est douce, le soulagement intense, mais l'odeur gratte si fort qu'elle fait lever la honte. Le bien-être devient une torture. Le froid encage son pantalon trempé d'urine. Piscine 3. Je rêve de squelettes. Leurs crânes sont remplis de caillasses. Je rêve d'eau couverte, de mots en langues inconnues. Je veux oublier. Les images persistent. Des cailloux blancs que le jour recouvre de poussière, qu'une marée de nuit rince et blanchit. Le petit pousset n'est jamais revenu sur ses pas pour ramasser ses galets. Il les a abandonnés, dans la glaise, comme des graines de haricots. Pas de fruits, des cales dures, logées profond dans la chair. Personne ne sait que mon corps est plein de pierres, mais il y a des signes. J'ai un caillou dans l'œil, un autre dans la main. Je les écoute gronder, et mon œil prend une patine de mousse, et ma main est forte comme un roc. Je pars à la pêche aux vérités, elles coulent entre mes doigts, fugaces. Je veux attraper ces poissons-là, les yeux aveugles, le crâne perméable. Qu'ils entrent par mes oreilles, par la racine de mes cheveux, qu'ils grignotent les cales autour des cailloux abandonnés. Il faut que je nage pour ce père qui n'a pas appris. 1965-1970, Ouest. La petite ajoute un animal à sa ménagerie de terre. Elle remplace la trompe trop fragile par un bout de carton. Père construit une maisonnette de briques avec une porte et une fenêtre pour sa fillette. C'est ainsi qu'il témoigne de son affection, qu'il se rassure sur sa pérennité. Il bâtit. Briques, tuiles, bois, contre le malheur des foyers détruits, des gens jetés sur les routes, des exilés du monde. Il travaille seul, il répare le moteur des camions, monte des murs, trouve des solutions. La petite le regarde, enregistre les gestes. La danse de la plâtreuse transforme le mur en miroir. Contempler une surface sans aspérité, une plaine sans traverse, un champ sans défaut, un jardin aligné, le monde est simple. Le labeur donne la paix et l'oubli. Rien ne manque jamais de travail. Père ne manque jamais de travail. Des voisins viennent à lui, toujours plus nombreux pour solliciter son habileté. Il s'engouffre dans l'effort, dans le don de soi. C'est tellement mieux d'être ailleurs, hors du cercle de l'intime. Pas de danger, pas de questions. Père se cure la mémoire, nettoie ses souvenirs noirs à l'eau de Javel. Mais c'est son corps rempli de pierre qu'il soumet à la tâche. Dure, exténuante, anesthésiante. Il broie ses cailloux en gravier, en sable, en sédiments qui font crier les jointures. Une douleur vraie à un endroit réel, gonflé d'inflammation. Un endroit à soigner, à masser au camphre, à réchauffer avec une bouillotte. À réparer avec des moyens d'homme. Père, perclus, pose son buste sur la table. La petite, avec toute sa concentration d'enfant bienveillant, masse le large dos contracturé. Il y a longtemps que mère ne le fait plus. Piscine 26. L'air s'échappe des narines. Mon nez est une paille. Je fais mousser mon soda. De gros pecs rondes et filent. Je nage dans un verre. Ma tête bouchon émerge. Je suis une baleine. La bouche grande ouverte. L'eau gouléante emplit toute la cavité d'un bon vin glougloutant. Le son craque en brindilles sèches, en feulement de pieds traînés dans des feuilles mortes. Je respire l'humus, la terre chaude. Je chevauche une de mes créatures. Elle s'appelle Rose. Le nom du poulet pie que je montais à la ferme. Elle sent l'avoine, l'épi de blé que je frotte, paume contre paume pour en extraire des grains. Je souffle pour éliminer les barbes piquantes. Les grains lourds se serrent dans le creux des mains de ma mère. Elle me les donne à mâcher. La pâte épaisse a le goût brut de la terre, de l'eau, du soleil et du pain, de ses croûtes blondes, mes préférées. L'enfance me revient sous la forme de sirènes. Elles ont extrait mes cailloux pour les broyer en poussière fine, en paillettes dorées dans ma chambre d'enfant, en fétu, en glouglou de ruisseaux dans la fraîcheur de l'herbe. Elles font étinceler les feuilles à l'automne, parfument les sous-bois de l'odeur des champignons. On les ramasse dans les forêts de Pologne, puis on les sèche pour les mettre en bocaux. La sagesse des conserves, le viatique de l'hiver. Je plonge, passe sous les cordes de séparation, je sors de l'eau, je renifle la merde, les déchets humains. Cette créature pèse son poids de secret, mais dans les bulles, j'ai entendu rire ma mère et mon père siffle comme un rossignol milanais. 2013, Ouest. Mère est morte cette nuit. Hier, c'était son anniversaire. Elle avait tout juste 80 ans. Son agonie dure depuis un mois. Grand frère lui a rendu visite. Elle a enfin lâché prise. La poitrine de mère a craché sa dernière apnée dans un trou de nuit. Peut-être est-elle morte à 5h du matin, l'heure habituelle de son réveil. Prête et fringante pour son voyage en décès. Sa petite valise, dans une main vigoureuse, le corps redressé, le regard clair. Son cadavre est vide, sec, ses yeux clos. Je tiens sa main osseuse, transparente. Je la sais ailleurs, je m'en réjouis. J'écris chaque mois, chaque année, en toutes lettres, de sa naissance à sa mort, mon premier carnet. Deux jours plus tard, un soleil de janvier en chemise blanche toute propre, repassée de frais, manchette sur la table, cligne de l'œil dans la cuisine. Je noue des bandes de tissu, autant de nœuds que d'années de vie de ma mère. Un an, un nœud, 2 ans, 2 nœuds. L'ouvrage a des allures de racine. Je termine les 79 nœuds. J'entame le chapelet des 80. J'ignore qui me fait lever la tête. Une énergie pure me happe. Une nuée d'amour, un sourire irrépressible, la lévitation du cœur, une étreinte totale, définitive, l'adieu de ma mère. Elle est passée, radieuse. Piscine 28. Une ligne fléchée blanche termine chaque couloir, ma ligne d'arrivée, la direction à suivre. Le bâtiment attend une rénovation massive. Il ferme pour plusieurs années. Mon chemin s'est lové dans ses vieilles pierres, ses carreaux usés. Le périple est à son terme. La nage m'a remise d'aplomb. Mon corps, abîmé par le cancer, élimine ses pierres. Je louche sur ma cicatrice en marchant vers les douches. Mais mon corps danse sur terre et dans l'eau. Mère regarde par-dessus mon épaule, reconnaissante. Je suis la main qui écrit pour elle, pour donner sens à une vie lentement étouffée dans l'incompréhension des hommes. Père est cette main devenue droite et habile qui reconnaît tous les gestes appris. Je suis ce mélange, une bricoleuse de choc à tête de poète. Je n'ai pas tout dit, mais tout est là. J'ai retrouvé mon enfance, accepté mes origines et ma féminité. Vieillir me rend disponible aux présences fugaces. Je n'ai jamais pu me résoudre au culte qu'on rend aux dépouilles enfouies dans la terre ou réduites en cendres. Mais mort m'accompagne. Il est 16 heures, il fait déjà noir, j'allume dans l'atelier, je suis sereine.
C'est un texte que poétique et fort, en fait. Alors, je ne sais pas si c'est lié à votre lecture, à vous, mais je trouve qu'il y a presque une dimension picturale dans ces descriptions.
Absolument.
C'est vrai,
absolument.
Hein, on sent les objets, on a presque envie de les toucher, enfin, toutes sortes de choses qu'elle décrit comme ça, c'est assez... c'est vraiment intéressant aussi d'entendre comme ça des lectures à haute voix. Pourquoi est-ce que vous avez choisi ce texte, d'ailleurs? Je sais que vous avez travaillé sur ce roman... Et qu'est-ce qui vous plaît particulièrement dans ce texte ?
Ce texte m'a bouleversé par la manière dont Annick Varlanievitch a réussi à combiner un travail sur la mémoire, celle qui consistait à faire ressurgir la personnalité, la vie de son grand-père dont elle avait très peu d'éléments, et puis... Son parcours personnel, la maladie notamment, tout ça en relation avec ses proches, son père, sa mère, la marraine, des personnages qui l'entourent dans l'enfance et qui la guident dans son parcours de vie. Et donc alterne dans le livre plusieurs passages, les passages où elle est à la piscine, les passages où remonte à la surface des souvenirs, les moments où elle reconstitue elle-même les vides laissés dans la mémoire. Et tout ça, en fait, c'est quelque chose qui est en train de se faire et qu'elle nous donne en partage. Donc c'est un livre, oui, qui m'a bouleversé. Oui.
Alors, jusque-là, on a beaucoup parlé des rencontres et on va continuer, en fait. Puisque, évidemment, il y a les rencontres avec les écrivains, avec le public, mais aussi, pour ce qui vous concerne en particulier, la rencontre avec les productions des autres. Alors, on l'a déjà bien évoqué, mais cet intérêt-là, vous l'avez affirmé dans un recueil dont vous êtes l'auteur, et qui s'intitule « L'art et la vie » aux éditions du Petit Pavé, dans lequel vous livrez votre travail de collectage. Alors, on y trouve des photographies hein, de parterres de fleurs qui annoncent le Tour de France, des façades recouvertes de composants électroniques et de petits dinosaures. Celui-là, je le trouve particulièrement beau. C'est extraordinaire. Des mosaïques en tout genre, des portes en bois sculptées, des portails surmontés de chiens et de serpents. Alors, celui-là, je l'ai noté parce qu'en fait, je me souviens l'avoir vu enfant. C'est ou adolescente. Vrai. Mes grands-parents habitaient à Saint-Ouen-des-Toits.
C'est vrai.
Et quand je l'ai vu, je l'avais oublié, évidemment. J'ai revu cet objet complètement incroyable, en fait, complètement fou. Et voilà, et je trouve ça émouvant. Et alors, c'est précisément ça, moi, je trouve, l'effet que font ces œuvres. Je ne sais pas là, si j'ai bien formulé ma phrase, mais ce n'est pas grave. Parce que quand on se donne la peine vraiment de regarder, puis peut-être mettre... quand même de côté, ça c'est un sujet qu'il faudrait aborder, mais on ne va pas avoir le temps, de côté nos préjugés, on se rend compte à quel point ce sont des œuvres qui sont émouvantes, et pas seulement parce qu'elles parlent à nos souvenirs, hein, parce que c'est vraiment le témoignage d'une sensibilité qui à part, enfin c'est vraiment une affirmation de soi, il y a une détermination et une application des artistes qui est parfois au-delà du raisonnable, parce que se lancer dans des projets comme ça, je trouve ça un peu fou en fait. À quel moment vous vous êtes dit... voilà, il faut conserver ces objets-là, insolites, étranges, poétiques. Enfin, il y a plein d'adjectifs qu'on pourrait leur apposer. Quelle a été votre volonté, en fait, à travers ce livre-là, ce travail de collecte ?
La véritable intention est venue progressivement. Le point de départ, c'était la sensation qu'il y avait urgence permanente à saisir ce que l'on a sous les yeux, parce que on s'aperçoit que quand on repasse sur des lieux qui avaient attiré notre regard, on s'aperçoit que parfois ce qu'on avait vu a disparu. Donc ça, c'est l'aspect très concret de prendre en photo ce que l'on voit. Et donc, donc prendre des chemins de traverse, parfois même pousser des portes pour pouvoir avoir accès à des œuvres dont on a entendu parler d'une manière ou d'une autre. Mmh. Et alors, en fait, ce que petit à petit j'ai pu déceler, c'est qu'il y avait des choses très différentes. Et là, pour le coup, c'est quelque chose de personnel, c'est-à-dire que quelqu'un d'autre aurait accepté certaines œuvres, en aurait rejeté d'autres. Moi, j'ai pris plutôt le parti de ne pas faire trop de distinctions. Ce qui fait que j'ai photographié des petites pancartes parfois, des petites enseignes qu'on peut penser sans grand attrait ni intérêt, mais je le faisais volontairement. Des œuvres décoratives qu'on peut considérer comme des œuvres tout à fait mineures, mais je les ai photographiées. Et alors, à côté de ça, évidemment, il y avait des œuvres beaucoup plus intériorisées. Toutes les œuvres que je monte ne sont pas des œuvres qui sont destinées vers l'extérieur, tournées vers l'extérieur, bien que finalement, on peut le dire pratiquement de toutes, hein, même celles qui sont le produit de personnes très introverties. Et donc, voilà, j'ai constitué comme ça un corpus très hétéroclite pendant 3 décennies. Et c'est donc au moment de se dire que est-ce qu'on peut faire quelque chose de tout ça, que la mise en forme est arrivée et donc le projet de livre est arrivé. Avec, comme vous avez pu le voir, plusieurs chapitres. Je parle à un moment de l'art des enfants, par exemple, mais aussi d'autres choses, les peintures en relief, les traditions, voilà, on peut égrener comme ça la suite des chapitres, parce que, voilà, j'ai mis un peu d'ordre dans tout ça, dans tout ce,
oui, c'est
dans
ça.
Tout ce fatras, de manière à ce que le sens aussi puisse naître. Et d'ailleurs, quand vous en parlez, ce qu'on entend de ce que vous dites, c'est qu'elles font sens, ces œuvres, pour les personnes qui feuillette le livre,
oui.
Quelque chose se passe.
Oui.
Et c'était un peu ça, le projet.
C'est vrai que parfois, on a besoin aussi qu'on nous montre, en fait. Il faut pointer du doigt. C'est effectivement, parce que c'est des objets ou des œuvres qu'on a vues. Enfin, évidemment, pas forcément celles que vous avez photographiées, mais c'est, comme vous dites, ces œuvres-là, elles sont présentes partout. Et parfois, on a besoin aussi qu'elles soient désignées. Et le fait, finalement, de les présenter dans un ouvrage, c'est ajouter de la valeur aussi.
Oui, tout à fait.
C'est vrai que... Et dans la mesure où ce sont des œuvres qui, pour la plupart, évidemment, ne trouveront pas de place dans des musées, ne serait-ce que des fois de par leur nature éphémère aussi, hein, et puis parce qu'elles appartiennent vraiment à un territoire, un environnement extrêmement proche, c'est une manière de les consacrer.
Tout à fait.
De leur absolument. Faire une place, mm-hmm. Avec cette volonté, vous l'avez dit, ça c'est vraiment très intéressant, de ne surtout pas hiérarchiser, parce que c'est probablement ce que fait le musée.
Oui.
Voilà, c'est un petit peu l'inconvénient du musée, c'est un lieu formidable, oui. Très agréable, mm-hmm. Mais on hiérarchise. Mm-hmm. Alors est-ce qu'il y a, ça va être ma dernière question, parce que le temps passe, est-ce que ce serait quand même une façon de votre part, parce que je dirais que le propos devient presque politique, mais je crois que la politique finalement est partout, est-ce que c'est aussi une façon d'affirmer, de dire, voilà, mais ce sont des œuvres d'art en fait, au même titre que les autres, il n'y a pas de hiérarchie.
Oui, absolument, absolument, et justement, un art qui s'ouvre, un art qui décloisonne l'idée que l'on se fait habituellement de la hiérarchie dans laquelle nos esprits sont placés, de la hiérarchisation des arts. Là, on ouvre des voies, on ouvre des pistes pour montrer que non, l'art, quelque part, est sans frontières. Il le sera toujours, que ce soit dans le temps, que ce soit dans l'espace. Et que finalement, la seule chose qui nous est donnée, c'est d'ouvrir les yeux.
Bien, c'est la fin de cette émission. Donc nous allons terminer cette émission avec un morceau de Yann Garbarek et The Hilliard Ensemble. Merci à vous, Jean-Louis Cerisier,
merci.
Le passeur d'art, d'avoir accepté de répondre à cette invitation. C'était un plaisir de discuter avec vous. Et merci encore à l'autre radio de nous avoir accueillis.